Chapitre 8. Carambolage de la bille rouge et de la bille noire. Le lendemain, qui était le jeudi, à peu de distance de Saint-Malo, près de la pointe du Décollé, à un endroit où la falaise est haute et où la mer est profonde, il se passa une chose tragique. Une langue de rocher en forme de fer de lance qui se relie à la terre par un isthme étroit se prolonge dans l'eau et s'y achève brusquement par un grand brisant à pic. Rien n'est plus fréquent dans l'architecture de la mer. Pour arriver en venant du rivage au plateau de la roche à pic, on suit un plan incliné dont la montée est quelquefois assez âpre. C'est sur un plateau de ce genre qu'était debout vers 4 heures du soir un homme enveloppé dans une large cape d'ordonnance et probablement armé de sceaux. Chose facile à reconnaître à de certains plis droits et anguleux de son manteau. Le sommet où se tenait cet homme était une plateforme assez vaste, semée de gros cubes de roches, pareils à des pavés démesurés, et laissant entre eux des passages étroits. Cette plateforme, où croissait une petite herbe épaisse et courte, se terminait du côté de la mer par un espace libre, aboutissant à un escarpement vertical. L'escarpement, élevé d'une 60aine de pieds au-dessus de la haute mer, semblait taillé au fil à plomb. Son angle de gauche pourtant se ruinait et offrait un de ces escaliers naturels propres aux falaises de granit, dont les marches peu commodes exigent quelquefois des enjambées de géants ou des sauts de clowns. Cette dégringolade de rochers descendait perpendiculairement jusqu'à la mer et s'y enfonçait. C'était à peu près un casse-cou. Cependant, à la rigueur, on pouvait par là s'aller embarquer sous la muraille même de la falaise. La brise soufflait. L'homme, serré dans sa cape, ferme sur ses jarrets, la main gauche empoignant son coude droit, clignait un œil et appuyait l'autre sur une longue vue. Il semblait absorbé dans une attention sérieuse. Il s'était approché du bord de l'escarpement et il se tenait là immobile, le regard imperturbablement attaché sur l'horizon. La marée était pleine. Le flot battait au-dessous de lui le bas de la falaise. Ce que cet homme observait, c'était un navire au large qui faisait en effet un jeu singulier. Ce navire, qui venait de quitter depuis 1 heure à peine le port de Saint-Malo, s'était arrêté derrière les banquetiers. C'était un trois-mâts. Il n'avait pas jeté l'ancre, peut-être parce que le fond ne lui eût permis d'abattre que sur le bord du câble, et parce que le navire eût serré son ancre sous le timer. Il s'était borné à mettre en panne. L'homme, qui était un garde-côte, comme le faisait voir sa cape d'uniforme, épiait toutes les manœuvres du trois-mâts et semblait en prendre note mentalement. Le navire avait mis en panne vent dessus, vent dedans, ce qu'indiquait le petit hunier coiffé et le vent laissé dans le grand hunier. Il avait bordé l'artimon et orienté le perroquet de fougue au plus près, de façon à contrarier les voiles les unes par les autres et avoir peu d'arrivée et moins de dérive. Il ne se souciait point de se présenter beaucoup au vent, car il n'avait brassé le petit hunier que perpendiculairement à la quille. De cette façon, tombant en travers, il ne dérivait au plus que d'une demi-lieue à l'heure. Il faisait encore grand jour, surtout en pleine mer et sur le haut de la falaise. Le bas des côtes devenait obscur. Le garde-côte, tout à sa besogne et espionnant consciencieusement le large, n'avait pas songé à scruter le rocher à côté et au-dessous de lui. Il tournait le dos à l'espèce d'escalier peu praticable qui mettait en communication le plateau de la falaise et la mer. Il ne remarquait pas que quelque chose y remuait. Il y avait, dans cet escalier, derrière une anfractuosité, quelqu'un, un homme, caché là, selon toute apparence, avant l'arrivée du garde-côte. De temps en temps, dans l'ombre, une tête sortait de dessous la roche, regardait en haut et guettait le guetteur. Cette tête, coiffée d'un large chapeau américain, était celle de l'homme, du Quaker, qui, une dizaine de jours auparavant, parlait dans les pierres du Petit Bay au capitaine Zuela. Tout à coup, l'attention du garde-côte parut redoublée. Il essuya rapidement du drap de sa manche le verre de sa longue-vue et la braqua avec énergie sur le trois-mâts. Un point noir venait de s'en détacher. Ce point noir, semblable à une fourmi sur la mer, était une embarcation. L'embarcation semblait vouloir gagner la terre. Quelques marins la montaient, ramant vigoureusement. Elle obliquait peu à peu et se dirigeait vers la pointe du décollé. Le guet du garde-côte était arrivé à son plus haut degré de fixité. Il ne perdait pas un mouvement de l'embarcation. Il s'était rapproché plus près encore de l'extrême bord de la falaise. En ce moment, un homme de haute stature, le Quaker, surgit derrière le garde-côte, au haut de l'escalier. Le guetteur ne le voyait pas. Cet homme s'arrêta un instant, les bras pendants et les poings crispés, et, avec l'œil d'un chasseur qui vise, il regarda le dos du garde-côte. Quatre pas seulement le séparaient du garde-côte. Il mit un pied en avant, puis s'arrêta. Il fit un second pas et s'arrêta encore. Il ne faisait point d'autre mouvement que de marcher. Tout le reste de son corps était statue. Son pied s'appuyait sur l'herbe sans bruit. Il fit le troisième pas et s'arrêta. Il touchait presque le garde-côte, toujours immobile avec sa longue vue. L'homme ramena lentement ses deux mains fermées à la hauteur de ses clavicules, puis, brusquement, ses avant-bras s'abattirent et ses deux poings, comme lâchés par une détente, frappèrent les deux épaules du garde-côte. Le choc fut sinistre. Le garde-côte n'eut pas le temps de jeter un cri. Il tomba, la tête la première, du haut de la falaise dans la mer. On vit ses deux semelles le temps d'un éclair. Ce fut une pierre dans l'eau. Tout se referma. Deux ou trois grands cercles se firent dans l'eau sombre. Il ne resta que la longue-vue échappée des mains du garde-côte et tombée à terre sur l'herbe. Le Quaker se pencha sur le bord de l'escarpement, regarda les cercles s'effacer dans le flot, attendit quelques minutes, puis se redressa, en chantant entre ses dents « Monsieur de la police est mort, en perdant la vie ». Il se pencha une seconde fois. Rien ne reparut. Seulement, à l'endroit où le garde-côte s'était englouti, il s'était formé à la surface de l'eau une sorte d'épaisseur brune qui s'élargissait sur le balancement de la lame. Il était probable que le garde-côte s'était brisé le crâne sur quelque roche sous-marine. Son sang remontait et faisait cette tache dans l'écume. Le Quaker, tout en considérant cette flaque rougeâtre, reprit. Un quart d'heure avant sa mort, il l'était encore. Il n'acheva pas. Il entendit derrière lui une voix très douce qui disait « Vous voilà, Rantaine. Bonjour. Vous venez de tuer un homme. » Il se retourna et vit à une quinzaine de pas en arrière de lui, à l'issue d'un des entre-deux des rochers, un petit homme qui avait un revolver à la main. Il répondit « Comme vous voyez. Bonjour, Sieur Clubin. » Le petit homme eut un tressaillement. « Vous me reconnaissez ?»« Vous m'avez bien reconnu. » repartit Rantaine. Cependant, on entendait un bruit de rame sur la mer. C'était l'embarcation observée par le garde-côte qui approchait. Sieur Clubin dit à demi-voix, comme se parlant à lui-même. Cela a été vite fait.
« Qu'y a-t-il pour votre service ?» demanda Rantaine. « Pas grand-chose. Voilà tout à l'heure 10 ans que je ne vous ai vu. Vous avez dû faire de bonnes affaires. « Comment vous portez-vous ? »
« Bien, » dit Rantaine.
« Et vous ?»«
Très bien, » répondit Sieur Clubin.
Rantaine fit un pas vers Sieur Clubin. Un petit coup sec arriva à son oreille. C'était Sieur Clubin qui armait le revolver.
« Rantaine, nous sommes à 15 pas. C'est une bonne distance. Restez où vous êtes. »«
Ah, ça ? » fit Rantaine. « Qu'est-ce que vous me voulez ?»
« Moi, je viens causer avec vous. »
Rantaine ne bougea plus. Sieur Clubin reprit.
Vous venez d'assassiner un garde-côte. » Rantaine souleva le bord de son chapeau et répondit. « Vous m'avez déjà fait l'honneur de me le dire. » En termes moins précis, j'avais dit un homme. Je dis maintenant un garde-côte. Ce garde-côte portait le numéro 619. Il était père de famille. Il laisse une femme et 5 enfants. « Ça doit être, » dit Rantaine. Il y eut un imperceptible temps d'arrêt. « Ce sont des hommes de choix, ces garde-côtes, » fit Clubin. « Presque tous d'anciens marins. » J'ai remarqué, dit Rantaine, qu'en général on laisse une femme et 5 enfants. Sieur Clubin continua. Devinez combien m'a coûté ce revolver.
C'est une jolie pièce, répondit Rantaine.
Combien l'estimez-vous?
Je l'estime beaucoup.
Il m'a coûté 144 francs.
Vous avez dû acheter ça, dit Rantaine, à la boutique d'armes de la rue Coutanchaise.
Clubin reprit. Il n'a pas crié. La chute coupe la voix.
Sieur Clubin, il y aura de la brise cette nuit. Je suis seul dans le secret.
Logez-vous toujours à l'auberge Jean? Demanda Rantaine.
Oui, on y est pas mal.
Je me rappelle y avoir mangé de bonnes choucroutes.
Vous devez être excessivement fort, Rantaine. Vous avez des épaules. Je ne voudrais pas recevoir une chiquenaude de vous.
Moi, quand je suis venu au monde, j'avais l'air si chétif qu'on ne savait pas si on réussirait à m'élever.
On y a réussi, c'est heureux.
Oui, je loge toujours à cette vieille auberge Jean.
Savez-vous, sieur Clubin, pourquoi je vous ai reconnu?
C'est parce que vous m'avez reconnu.
J'ai dit, il n'y a pour cela que Clubin.
Et il avança d'un pas. Replacez-vous où vous étiez, Rantaine.
Rantaine recula et fit cet aparté. On devient un enfant devant ces machins-là.
Sieur Clubin poursuivit.
Situation. Nous avons à droite, du côté de Saint-Enoga, à 300 pas d'ici, un autre garde-côte, le numéro 618, qui est vivant. Et à gauche, du côté de Saint-Lunaire, un poste de douane. Cela fait 7 hommes armés qui peuvent être ici dans 5 minutes. Le rocher sera cerné. Le col sera gardé. Impossible de s'évader. Il y a un cadavre au pied de la falaise.
Rantaine jeta un œil oblique sur le revolver.
Comme vous dites, Rantaine, c'est une jolie pièce. Peut-être n'est-il chargé qu'à poudre. Mais qu'est-ce que cela fait? Il suffit d'un coup de feu pour faire accourir la force armée. J'en ai 6 à tirer.
Le choc alternatif des rames devenait très distinct. Le canot n'était pas loin. Le grand homme regardait le petit homme, étrangement. Sieur Clubin parlait d'une voix de plus en plus tranquille et douce.
« Rantaine, les hommes du canot qui va arriver, sachant ce que vous venez de faire ici tout à l'heure, prêteraient main forte et aideraient à vous arrêter. Vous payez votre passage 10 000 francs au capitaine Zuela. Par parenthèse, vous auriez eu meilleur marché avec les contrebandiers de plein mont. Mais ils ne vous auraient mené qu'en Angleterre. Et d'ailleurs, vous ne pouvez risquer d'aller à Guernesey, où l'on a l'honneur de vous connaître. Je reviens à la situation. Si je fais feu, on vous arrête. Vous payez à Zuela votre fugue 10 000 francs. Vous lui avez donné 5 000 francs d'avance. Zuela garderait les 5 000 francs et s'en irait. Voilà.
Rantaine, vous êtes bien affublé.
Ce chapeau, ce drôle d'habit et ces guêtres vous changent.
Vous avez oublié les lunettes.
Vous avez bien fait de laisser pousser vos favoris.
Rantaine fit un sourire assez semblable à un grincement. Clubin continua. Rantaine, vous avez une culotte américaine à gousset double. Dans l'un, il y a votre montre. Gardez-la.
Merci, sieur Clubin.
Dans l'autre, il y a une petite boîte de fer battue qui ouvre et ferme à ressort. C'est une ancienne tabatière à matelot. Tirez-la de votre gousset et jetez-la moi.
Mais c'est un vol.
Vous êtes libre de crier à la garde. Et Clubin regarda fixement Rantaine.
Tenez, messe Clubin, dit Rantaine, faisant un pas et tendant sa main ouverte. Metz était une flatterie. Restez où vous êtes, Rantaine.
Metz Clubin, arrangeons-nous. Je vous offre moitié.
Clubin exécuta un croisement de bras d'où sortait le bout de son revolver.
Rantaine, pour qui me prenez-vous? Je suis un honnête homme.
Et il ajouta, après un silence,
il me faut tout.
Rantaine grommela entre ses dents.
Celui-ci est d'un fort gabarit.
Cependant, l'œil de Clubin venait de s'allumer. Sa voix devint nette et coupante comme l'acier. Il s'écria.
Je vois que vous vous méprenez. C'est vous qui vous appelez vol. Moi, je m'appelle Restitution.
Rantaine, écoutez. Il y a 10 ans, vous avez quitté de nuit Guernesey en prenant dans la caisse d'une association 50 000 francs qui étaient à vous et en oubliant d'y laisser 50 000 francs qui étaient à un autre. Ces 50 000 francs volés par vous à votre associé, l'excellent et digne Metz Lethierry, font aujourd'hui, avec les intérêts composés pendant 10 ans, 80 666 francs 66 centimes. Hier, vous êtes rentré chez un changeur. Je vais vous le nommer, Rébuchet, rue Saint-Vincent. Vous lui avez compté 76 000 francs en billets de banque français, contre lesquels il vous a donné 3 banknotes d'Angleterre de 1 000 livres sterling chaque, plus l'appoint. Vous avez mis ces banknotes dans la tabatière de fer et la tabatière de fer dans votre gousset de droite. Ces 3 000 livres sterling font 75 000 francs. Au nom de Metz Lethierry, je m'en contenterai. Je pars demain pour Guernesey et j'entends les lui porter.
Rantaine, le 3-mâts qui est là en panne et le tamas au lépasse.
Vous y avez fait embarquer cette nuit vos malles mêlées aux sacs et aux valises de l'équipage. Vous voulez quitter la France. Vous avez vos raisons. Vous allez à Arquipa. L'embarcation vient vous chercher. Vous l'attendez ici. Elle arrive. On l'entend qui nage.
Il dépend de moi de vous laisser partir ou de vous faire rester.
Assez de paroles. Jetez-moi la tabatière de fer. Rantaine ouvrit son gousset, en tira une petite boîte et la jeta à Clubin. C'était la tabatière de fer. Elle alla rouler au pied de Clubin. Clubin se pencha sans baisser la tête et ramassa la tabatière de la main gauche, tenant dirigée sur Rantaine ses 2 yeux et les 6 canons du revolver. Puis il cria
« Mon ami, tournez le dos !»
Rantaine tourna le dos. Sieur Clubin mit le revolver sous son aisselle et fit jouer le ressort de la tabatière. La boîte s'ouvrit. Elle contenait 4 banknotes, 3 de 1 000 livres et 1 de 10 livres. Il replia les 3 banknotes de 1 000 livres, les replaça dans la tabatière de fer, referma la boîte et la mit dans sa poche. Puis il prit à terre un caillou. Il enveloppa ce caillou du billet de 10 livres et dit « Retournez-vous ». Rantaine se retourna. Sieur Clubin reprit « Je vous ai dit que je me contenterais des 3 000 livres. Voilà 10 livres que je vous rends. » Et il jeta à Rantaine le billet lesté du caillou. Rantaine, d'un coup de pied, lança la banknote et le caillou dans la mer.
« Comme il vous plaira, » fit Clubin.
« Allons, vous devez être riche, je suis tranquille. » Le bruit de rames qui s'était continuellement rapproché pendant ce dialogue cessa. Cela indiquait que l'embarcation était au pied de la falaise. « Votre fiacre est en bas. Vous pouvez partir, Rantaine. »
Rantaine se dirigea vers l'escalier et s'y enfonça.
Clubin vint avec précaution au bord de l'escarpement et, avançant la tête, le regarda descendre. Le canot s'était arrêté près de la dernière marche de rocher, à l'endroit même où était tombé le garde-côte. Tout en regardant dégringoler Rantaine, Clubin grommela.
Bon numéro 619, il se croyait seul.
Rantaine croyait n'être que 2, moi seul savais que nous étions 3. Il aperçut à ses pieds sur l'herbe la longue-vue qu'avait laissée tomber le garde-côte. Il la ramassa. Le bruit de rames recommença. Rantaine venait de sauter dans l'embarcation et le canot prenait le large. Quand Rantaine fut dans le canot, après les premiers coups d'aviron, la falaise commençant à s'éloigner derrière lui, il se dressa brusquement debout, sa face devint monstrueuse. Il montra le poing en bas et cria
Ah, le diable lui-même est une canaille. »
Quelques secondes après, Clubin, en haut de la falaise et braquant la longue-vue sur l'embarcation, entendait distinctement ces paroles articulées par une voix haute dans le bruit de la mer.
« Sieur Clubin, vous êtes un honnête homme, mais vous trouverez bon que j'écrive à le Thierry pour lui faire part de la chose. Et voici dans le canot un matelot de Guernesey qui est de l'équipage du Tamaulipas, qui s'appelle Ayetos Tevin, qui reviendra à Saint-Malo au prochain voyage de Tsuella, et qui témoignera que je vous ai remis pour Mess le Thierry la somme de 3 000 livres sterling. »
C'était la voix de Rantaine. Clubin était l'homme des choses bien faites, immobile comme l'avait été le garde-côte, et à cette même place, l'œil dans la longue-vue, il ne quitta pas un instant le canot du regard. Il le vit décroître dans les lames, disparaître et reparaître, approcher le navire en panne et l'accoster, et il put reconnaître la haute taille de Rantaine sur le pont du Tamaulipas. Quand le canot fut remonté à bord et replacé dans les pistolets, le Tamaulipas fit servir. La brise montait de terre, il éventa toutes ses voiles. La lunette de Clubin demeura braquée sur cette silhouette de plus en plus simplifiée. Et, une demi-heure après, le Tamaulipas n'était plus qu'une corne noire, s'amoindrissant à l'horizon sur le ciel blême du crépuscule.